France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Le pape en Turquie pour défendre les minorités chrétiennes dans un pays largement islamisé. Léon XIV a rencontré tout à l'heure le président Erdogan. Nous serons à Ankara dans un instant. 75 morts à Hong Kong. Le bilan de l'incendie des tours d'habitation s'alourdit d'heure en heure. Un drame très commenté sur les réseaux sociaux chinois. Emmanuel Macron relance le service national. Un service volontaire. Les militaires engagés seront déployés sur le seul territoire français. Nous ferons le point avec Rosalie Lafarge. À 18h15, après ce journal, Maire, pourquoi faire ? Notre rendez-vous consacré aux enjeux des élections municipales. Aujourd'hui, la gestion des déchets qui coûte de plus en plus cher. Exemple en Mayenne avec le reportage de Nicolas Ballu. Le pape a donc choisi un pays musulman, la Turquie, pour le premier voyage hors d'Italie de son pontificat entamé il y a plus de 6 mois. Léon XIV est arrivé ce matin à Ankara, une première journée essentiellement politique marquée par une rencontre avec le président turc, l'islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan. L'occasion pour le souverain pontife de mettre en garde la Turquie, mais aussi d'en faire un partenaire pour la paix. On retrouve notre envoyé spécial Bruno Duvic à Ankara.
Les quelques milliers de catholiques de Turquie se sentent souvent bridés dans leur liberté de culte. Léon l'évoque sans trop de détours.
Dans une société comme celle de la Turquie, où la religion joue un rôle visible, il est fondamental d'honorer la dignité et la liberté de tous les enfants de Dieu.
Erdogan, qui prend la parole avant le pape, insiste plus sur le contexte géopolitique et ce qui rapproche Turquie et Saint-Siège.
La question palestinienne est cruciale pour instaurer un climat de paix durable dans notre région. Je tiens à saluer la position courageuse de notre très estimé invité, en particulier sur la Palestine. Nous devons la justice au peuple palestinien. C'est notre dette la plus importante.
Léon est prêt à reconnaître au leader turc un rôle important d'intermédiaire.
Monsieur le Président, puisse la Turquie être un facteur de stabilité et de rapprochement entre les peuples au service d'une paix juste et durable.
Demain, Istanbul et l'antique Nicée. Après la politique, soignez l'unité des chrétiens en célébrant ce qui rapproche catholiques et orthodoxes.
Bruno Duvic qui suit le voyage du pape en Turquie puis au Liban. À Hong Kong, le bilan de l'incendie qui a ravagé un complexe de gratte-ciel résidentiel ne cesse de s'alourdir. Au moins 75 morts et plus de 250 disparus selon le dernier bilan. Les pompiers continuent à asperger d'eau les tours calcinées. Sur l'origine du feu, la présence d'échafaudages en bambou semble avoir accéléré la propagation des flammes. Ce drame dans l'ancienne colonie britannique, désormais sous pavillon chinois, a suscité une immense émotion sur les réseaux sociaux, Dominique André.
Prière pour Hong Kong, nous avons le cœur brisé. Comment est-ce possible à Hong Kong ? Les habitants sont bouleversés et effrayés par l'incendie meurtrier. On voit de nombreuses images montrant des familles de rescapés en larmes. Monsieur Suen, un habitant âgé du complexe résidentiel qui a flambé, témoigne sur le réseau social X au micro d'un journaliste de l'agence France-Presse.
Le feu s'est propagé si rapidement. J'ai vu une lance à incendie tenter de sauver plusieurs bâtiments et j'ai eu l'impression que c'était bien trop lent. Et regardez brûler, ils ont brûlé pendant des heures. Pourquoi le service des pompiers n'a-t-il pas géré cette situation soudaine correctement ? C'est bien triste.
Sur le compte du site d'actualité indépendant Hong Kong Free Press, un autre résident révèle qu'il s'était plaint de l'utilisation du polystyrène, alors que la police soupçonne que des matériaux dangereux sont peut-être à l'origine de la propagation rapide du feu. Dites que ce ne sont pas les échafaudages en bambou, mais les filets qui protégeaient le chantier, dénonce l'avocate Chung Ching Kong. Une autre avocate, Yatu Wang, défenseuse des droits de l'homme, sur X aussi rappelle l'absence de liberté et de dirigeants démocratiquement élus à Hong Kong, ce qui ne fera, alerte-t-elle, qu'entraver une véritable enquête. À l'émotion s'ajoute l'exigence de vérité.
Dominique André de la rédaction internationale de Radio France. L'ESA, l'agence spatiale européenne, a engrangé aujourd'hui des contributions records pour son fonctionnement, plus de 22 milliards d'euros. Les 23 États membres de l'agence étaient réunis à Brême en Allemagne avec un double objectif, définir une stratégie spatiale commune et surtout déterminer le budget versé par chaque pays pour les 3 années à venir. Les arbitrages rendus publics cet après-midi sont plutôt encourageants, Sébastien Baer.
Il fallait de l'argent pour que l'Europe reste dans la course dans le domaine spatial, largement dominé par les Américains et par la Chine. C'est donc chose faite, 22 milliards d'euros. C'est 5 milliards de plus que lors de la précédente conférence en 2022. Satisfaction de l'astronaute Thomas Pesquet qui prépare une mission vers la Lune.
C'est un record de contribution, c'est bien. Surtout en ce moment, c'était pas gagné. Hein. On a quand même du mal à trouver de l'argent un peu partout en Europe et c'est normal. Hein. Les temps sont compliqués, donc on essaie de dépenser chaque euro avec un peu de parcimonie, celle qu'on doit aux citoyens.
Cette enveloppe sera consacrée à l'exploration avec des missions de plus en plus lointaines et à la poursuite de l'exploitation d'Ariane 6, la fusée européenne. Le budget permettra aussi de financer le programme Copernicus d'observation de la Terre, assure Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace.
C'est préparer nos capacités pour observer les bouleversements aujourd'hui de notre climat, pour les anticiper et pour éventuellement essayer de prévenir, par exemple, aussi bien les évolutions climatiques, mais surtout aussi les catastrophes naturelles. Ça, c'est des choses qui sont extraordinairement concrètes parce qu'elles touchent nos concitoyens directement.
Avec plus de 5 milliards d'euros, l'Allemagne conforte son rang de premier contributeur européen devant la France et l'Italie. Le résultat global est satisfaisant, mais l'Europe reste à la traîne. Elle ne pèse que 10% dans le budget spatial mondial, 6 fois moins que les États-Unis.
Sébastien Baer, envoyé spécial au sommet de l'Agence spatiale européenne à Brême. Les États-Unis à l'arrêt aujourd'hui pour Thanksgiving, la grande fête traditionnelle où les familles américaines se réunissent autour d'une dinde rôtie. Sauf que l'inflation réduit cette année les ambitions culinaires de nombreuses familles. Malgré les discours de Donald Trump sur l'excellente santé de l'économie américaine, le pouvoir d'achat est en berne. Agathe Mahué a rencontré des consommateurs en plein préparatif à Atlanta.
Jen le dit en chargeant ses courses dans la voiture sur le parking de ce supermarché. Tout est plus cher, au point qu'il se prive cette année. Il n'y aura pas de gâteau au dessert sur la table de ce retraité. Jen vit avec une trop petite pension. Je reçois 24$ par mois d'aide alimentaire, dit-il en riant malgré tout. Ça reste Thanksgiving, ce sera quand même un bon moment. Le prix de la dinde star du repas traditionnel a bondi de 40% en un an sur le marché de gros. Les légumes aussi ont augmenté. Pourtant, Donald Trump assure le contraire et vante le panier spécial de Walmart, l'une des plus grosses enseignes. Un panier moins cher cette année, mais qui contient moins de produits.
My name is Tawana, and what is your name?
Le chariot de Tawana est plein. Elle ne voit pas les prix baisser. Ce que j'ai acheté pour $100 il y a quelques années, j'en ai maintenant pour $200. Le menu familial sera tout de même festif.
Turkey,
de la dinde, du jambon,
dressing macaroni and cheese,
des macaronis au fromage,
of course, sweet potato pie.
Et des tartes à la patate douce, bien sûr. Chacun apporte quelque chose pour que Thanksgiving reste une fête.
Agathe Mahué, correspondante de France Culture, Atlanta. Les négociations sur le plan de paix américain pour l'Ukraine semblent au point mort ce soir. Vladimir Poutine a rappelé aujourd'hui ses exigences. La Russie cessera les hostilités quand les Ukrainiens se seront retirés des territoires revendiqués par Moscou. Le président russe n'est pas rentré dans les détails, mais on sait qu'il veut s'emparer de tout le Donbass, alors que Kiev contrôle encore une partie de la région de Donetsk. 28 ans après la suspension de la conscription, autrement dit le service militaire obligatoire, Emmanuel Macron relance le service national, un dispositif purement militaire, réservé au seul territoire français, mais cette fois volontaire, pour répondre aux besoins des armées. Le chef de l'État a dévoilé son projet en fin de matinée depuis la 27e brigade d'infanterie de montagne de Vars en Isère. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir Stanislas.
Lancé progressivement dès l'été prochain, ce service national doit s'adresser aux jeunes majeurs dont la mobilisation, Rosalie, est nécessaire selon le président.
Oui, la seule façon d'éviter le danger, c'est de s'y préparer, pose Emmanuel Macron. Et s'y préparer, c'est renforcer les rangs des armées.
L'objectif que nous poursuivons est un objectif militaire.
À travers ce service national, donc réservé aux jeunes majeurs, principalement les 18-19 ans, durée 10 mois.
Ce qui correspond à une année de césure et permet de s'inscrire parfaitement dans le parcours de nos jeunes.
Uniquement en métropole ou dans les Outre-mer.
Le service national, c'est le territoire national.
Pas en Ukraine, ni ailleurs, donc. Et ça se fera sur la base du volontariat, sauf en cas de crise majeure. Pas question de revenir à la conscription.
Mais nous avons besoin de mobilisation.
Pour convaincre, l'Élysée propose 800 euros par mois minimum pour chaque volontaire, logé, nourri, équipé. Un accompagnement aussi dans la recherche d'emploi. Ensuite, l'idée c'est d'attirer pour parvenir à former un nouveau modèle d'armée.
Un modèle hybride d'armée va bel et bien apparaître, qui correspond aux menaces et aux risques qui sont devant nous. Dans ce monde incertain, c'est ce modèle hybride, prêt à toutes les bascules, qui doit s'imposer.
Vu le contexte budgétaire, l'entourage du président vante un projet réaliste. 3 000 jeunes dès cet été, 10 000 par an en 2030, pour un coût total estimé à 2,3 milliards d'euros. Des crédits prévus par l'actualisation de la loi de programmation militaire voulue par Emmanuel Macron, mais qui doit encore être votée par le Parlement.
Merci Rosalie Lafarge. Et pendant que le chef de l'État relance le service national, le Parlement poursuit ses travaux. Le Sénat a commencé aujourd'hui l'examen du projet de loi de finances. Le budget 2026, la majorité de droite et du centre, a promis de remettre en cause toutes les concessions faites au Parti Socialiste par le gouvernement. À l'Assemblée, la journée est consacrée à la niche LFI, autrement dit les textes portés par la France Insoumise, qui a la maîtrise de l'agenda aujourd'hui au Palais Bourbon. Parmi ces propositions de loi, il y a la nationalisation d'ArcelorMittal, le premier producteur d'acier en France, qui prévoit de supprimer plus de 600 emplois. Pour appuyer cette nationalisation et défendre la filière sidérurgique française, la CGT organisait devant l'Assemblée une manifestation. C'est un reportage de Camille Magnard.
Allez, on a besoin de sidérurgie en France !
Au mégaphone venu avec les métallurgistes de Gandrange en Lorraine, le CGT Christophe Jacquemin interpelle les députés.
Si l'État ne nationalise pas, Mittal a décidé de décamper de France et d'Europe !
Que nos dirigeants prennent conscience de ça ! Nous regarderons quel député ont voté ou ont fait obstruction à la nationalisation.
Jean-Michel Pazula vient lui aussi de Lorraine et pour lui, la nationalisation d'ArcelorMittal France, c'est une question de vie ou de mort pour la métallurgie française.
C'est reprendre l'outil de travail parce que Mittal n'investit plus dans ses usines nulle part en Europe. Donc il est en train de laisser pourrir notre outil de travail. Donc il faut qu'on reste en France et que l'État nous aide, qu'on fasse une nationalisation provisoire. Pourquoi pas ?
Et comme le rappelle Yann Amadoro de chez Novasco, 4 usines condamnées faute d'avoir trouvé un repreneur, l'État français met déjà des dizaines de millions en aide publique dans la métallurgie, mais sans pouvoir empêcher vraiment la casse industrielle.
À toutes les reprises, l'État a accompagné les projets de reprise. Et parfois à grands coups de millions, hein, le dernier reprise c'est 85 millions d'euros d'argent qu'ils ont mis, mais à aucun moment il a accepté l'idée de dire « je rentre au capital ». C'est ce qu'on avait demandé à chaque fois, même s'ils prennent 10%, 15%, mais au moins pour avoir leur mot à dire sur la stratégie de l'entreprise. Qu'on ne donne pas de l'argent dans un puits sans fond.
Les métallos CGT sont repartis dans l'après-midi sous la pluie froide, sans grand espoir. À quelques mètres de là, dans l'hémicycle, près de 300 amendements ont été déposés, la plupart par le RN et ses alliés, pour tenter d'empêcher que le vote sur la nationalisation puisse avoir lieu avant l'heure fatidique de minuit.
Une évasion à l'ancienne à la maison d'arrêt de Dijon la nuit dernière. Deux détenus sont parvenus à s'enfuir après avoir scié les barreaux de leur cellule et confectionné une corde de drap. Dans un communiqué, le ministère de la Justice rappelle que cette prison de Dijon est un établissement vétuste qui va bénéficier d'un investissement de 6,3 millions d'euros. On peut parler d'une véritable série noire pour l'administration pénitentiaire. Quelques jours après l'évasion d'un autre détenu à Rennes, lors d'une sortie au planétarium. On l'a appris tout à l'heure, cet homme a été interpellé en début d'après-midi près de Nantes sur un terrain réservé aux gens du voyage. Fin de cavale donc pour cet individu condamné pour des faits de vol. Mais cette affaire, Anne Fauquemberg, va laisser des traces chez les directeurs d'établissements pénitentiaires.
Le directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vézin avait en effet été démis de ses fonctions par le garde des Sceaux quelques jours après cette évasion, au mépris de la procédure habituelle. Un limogeage manu militari inacceptable selon Sébastien Nicolas. Il est le secrétaire national adjoint du syndicat pénitentiaire FO, direction majoritaire dans la profession.
Un chef d'établissement, un directeur, c'est pas un sous-fonctionnaire. Et à la fonction publique, il y a des droits. Quand une erreur a été commise, et une erreur qui peut être qualifiée de faute, sur le plan disciplinaire, il y a une procédure. Il y a une demande d'explication qui est remise à la personne. Cette demande d'explication donne lieu ou pas, en fonction de la réponse, à des poursuites disciplinaires. Et là, on enclenche une procédure qui est contradictoire, tout au long de laquelle le collègue est en capacité de s'expliquer, de présenter ses observations, voire même d'être assisté par un conseil, un avocat, une organisation syndicale, peu importe.
FO a publié un communiqué commun avec deux autres organisations professionnelles de directeurs de prison, le SNDP-CFDT et la Conférence nationale des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, un communiqué inédit. Les trois organisations qui comptent appeler leurs collègues à se rassembler prochainement indiquent que l'autorisation de sortie pour la visite au planétarium n'était pas du ressort du directeur de la prison, mais reposait sur la décision d'un magistrat prise en collégialité après le recueil de l'avis de plusieurs professionnels pénitentiaires et du parquet. Il reproche également à Gérald Darmanin de, je cite, « parader dans les structures surdotées des quartiers de lutte contre la criminalité organisée quand la grande majorité des services agonise ».
Anne Fauquemberg, un mot du temps demain, pluvieux sur les deux tiers nord du pays. Au sud, le soleil s'imposera après les brouillards matinaux. Les températures remontent entre 2 et 10 degrés le matin en général. L'après-midi, il fera entre 7 et 16 degrés.
France Culture, élection municipale 2026. Maire, pourquoi faire ?
Maire, pourquoi faire ? Notre rendez-vous hebdomadaire consacré aux élections municipales s'intéresse ce soir à un véritable casse-tête pour les communes et les communautés de communes, la gestion des déchets. Chaque année, ce sont plus de 11 milliards d'euros qui sont consacrés au traitement de nos poubelles. Le coût de cette gestion ne cesse d'augmenter, aussi bien pour le contribuable que pour le gestionnaire, dans les grandes villes comme dans les zones rurales. Illustration avec ce reportage de Nicolas Ballu dans le nord de la Mayenne.
Nous avons un badge.
Saint-Aubin du désert, entre Alençon, Laval et Le Mans. Le maire, Samuel Rago, est également élu chargé des déchets sur la communauté de communes du Mont des Avaloirs.
Ouvrez le conteneur. Donc là, il est ouvert. Et à partir du moment où il sera fermé, ça va compter un dépôt.
La tarification dite incitative a été mise en place au début de l'année. Elle a remplacé la taxe sur la redevance ménagère. Une part est fixe, l'autre varie en fonction de la fréquentation des conteneurs installés. Virginie Hérault, directrice générale des services de la communauté de communes.
La facture que vous payez, vous avez un nombre de passages par an. Et ensuite, si vous dépassez ce plafond, là, vous payez individuellement 2 euros à chaque fois que vous dépassez votre plafond.
Le Mans des Avaloirs, 26 communes rurales pour environ 16 000 habitants, 4 déchetteries, 5 il y a encore 3 ans. Le mauvais élève également du département en matière de tri des déchets. Et des communes dans le collimateur de la préfecture qui menaçaient de mettre sous tutelle la gestion des déchets. La collectivité était dans l'impossibilité d'investir, confrontée à de nouvelles obligations. Samuel Rago.
C'est des bassins de rétention, par exemple, pour les incendies, pour l'eau pluviale. Voilà, qu'il n'y ait pas de mélange entre les matières, que les piétons aillent d'un côté, les véhicules poids lourds de l'autre, enfin, qu'il n'y ait pas ces croisements-là, toutes les normes de sécurité. Enfin bon, l'État est bon hein, là-dessus pour en mettre des couches.
Virginie Hérault.
Avant tout passer dans les encombrants, aujourd'hui, par exemple, on va trier les articles de jardinage, on va trier le textile, on va trier le carton. Enfin voilà, donc effectivement, ça demande aussi un investissement pour les collectivités sur les déchetteries. Et puis des normes liées
sans oublier la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes qui s'applique aux déchets enfouis ou incinérés. En Mayenne, le traitement des ordures ménagères a été transféré au département. Pour la communauté de communes, aussi bien que les contribuables, limiter les coûts, c'est limiter le tonnage des déchets. Et ça marche.
Nos ordures ménagères ont été plus que divisées par deux en seulement une année, grâce aux efforts de tous. On a économisé 250 000 euros, ça va mieux.
Mais pour tout cela, le maire a d'abord dû convaincre et prendre son bâton de pèlerin dans toutes les communes.
Je suis loin d'être un artiste, mais j'ai fait salle comble dans des grosses communes où vous retrouvez 500 personnes dans des salles qui sont contre vous, hein, clairement. mais en expliquant justement, en expliquant les choses, on comprend mieux déjà. Et puis, les gens qui étaient réticents, ils se sont mis à trier quand même un petit peu par la force des choses.
La tarification incitative, qui peut prendre plusieurs formes, n'a pourtant pas que des vertus. Les erreurs de tri sont plus fréquentes et surtout les dépôts sauvages se multiplient. C'est là que le maire doit faire respecter ses pouvoirs de police.
Comme on est une petite commune, on est tout de suite appelé. Mais c'est vrai que voilà, on explique la chose. Il dit effectivement, vous avez un dépôt, vous allez payer 120 euros. Mais pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi vous avez...
Et le maire de Saint-Aubin l'assure, les fautifs sont retrouvés.
Dans les poubelles, il y a beaucoup d'indices. Beaucoup plus qu'on ne pense.
L'action de la collectivité n'est pas terminée. L'an dernier, elle a équipé chaque foyer de composteurs individuels. Elle devrait bientôt tester des composteurs collectifs sous la forme du volontariat. Virginie Hérault.
L'idée, c'est vraiment de bien travailler sur ce sujet-là, mais avec les habitants et les habitants volontaires.
Une préoccupation qu'on retrouve ailleurs, exemple à Gaillon. Un candidat à l'élection, David Piedefer, est venu au Salon des maires à Paris.
Dans votre système, à partir du moment où on commence c'est le ça, premier apport, il recrache du compost à partir de combien de temps ?
Il se passe entre 8 à 10 semaines.
D'accord. L'idée de faire du recyclage tout en régénérant des frais dans le transport pour avoir une unité centrale, ça m'agace un petit peu. Voilà. Et là, effectivement, ce produit-là, on peut générer tout en local.
Signe que les déchets sont une préoccupation constante des élus, la gestion des déchets occupait une large place, porte de Versailles, au Salon des maires.
Alors, la gestion des déchets est à la fois un casse-tête financier pour les élus et un enjeu politique quand les intercommunalités font payer aux contribuables le financement de leurs équipements. Et la tarification incitative, qui récompense en quelque sorte ceux qui trient le plus leurs déchets, ne fait plus l'unanimité. Écoutez à ce sujet l'éclairage du géographe Mathieu Durand, maître de conférence à l'Université du Mans, spécialiste de la question. Un entretien mené par Nicolas Ballu.
Pourquoi est-ce que ces dernières années, le coût de la gestion des déchets a flambé ?
Alors on a deux mécanismes parallèles qui existent et qui font que le coût de la gestion des déchets a flambé. D'une part, un système de taxes, on parle de TGAP, sur les activités notamment d'enfouissement des déchets, donc la mise en décharge des déchets qui est de plus en plus taxée, fortement taxée, et on sait que ça va évoluer dans les années à venir puisque c'est anticipé. On sait déjà que cette hausse va être même exponentielle. Et puis aussi, maintenant, depuis peu, l'incinération des déchets, ou ce qu'on appelle la valorisation énergétique des déchets, qui est aussi de plus en plus taxée, puisque jugée comme moins vertueuse que le recyclage ou que la réduction des déchets. Donc d'un côté, on taxe cette gestion des déchets, et puis d'un autre côté, on accompagne financièrement des pratiques qui sont jugées plus vertueuses à travers tout un mécanisme qui existe depuis les années 1990, mais qui se développe aujourd'hui largement, qui est ce qu'on appelle les filières REP, les filières de responsabilité élargie du producteur, gérées par des éco-organismes qui font que quand le citoyen achète un bien de consommation, une bouteille d'eau, un ordinateur, une table, il va payer quelques centimes, quelques euros d'éco-contribution qui vont venir alimenter toute cette mécanique, tout ce système, et du coup, cet argent, ce budget va en partie être utilisé via les communes ou via les intercommunalités pour financer le recyclage des déchets. Et malgré le fait de recevoir de l'argent, elles n'en reçoivent pas assez pour couvrir l'ensemble de leurs coûts. Donc elles doivent continuer à taxer via des taxes, via des redevances, les habitants d'un territoire.
Tout à l'heure, on entendait le maire de Saint-Aubin-du-Désert parler d'investissements nécessaires pour ces déchetteries. Est-ce que les intercommunalités sont obligées aujourd'hui de faire beaucoup d'investissements ?
Les investissements dans le domaine des déchets sont importants, mais ce n'est pas la majorité des coûts. La majorité des coûts, ça reste du fonctionnement, ça reste des agents de collecte, des agents de déchetterie, ça reste le fait de faire tourner des camions poubelles. L'essentiel du budget des déchets est ici. Pour autant, il y a un certain nombre d'investissements qui peuvent être dans des installations, dans des centres de recyclage, de tri des déchets, qui sont la plupart du temps faits par des opérateurs privés ou éventuellement par des syndicats, des gros syndicats intercommunaux. L'investissement des intercommunalités au quotidien, il est aussi beaucoup dans les déchetteries, puisque depuis 2020, on a une loi, la loi AGEC, qui multiplie le nombre de filières à recycler et qui, du coup, incite, voire parfois impose, le développement de nouveaux quais dans les déchetteries. Donc ça veut dire des déchetteries plus grandes, plus grosses, avec plus de surface, et donc un réaménagement très fort dans ces déchetteries, plus des investissements dans l'espace public, par exemple pour des points d'apport de collecte des biodéchets, qui se multiplient aussi dans les territoires.
De plus en plus, on voit que les communautés de communes mettent en place une tarification incitative. Est-ce que c'est une vraie solution pour limiter la production de déchets ?
Alors, on a considéré pendant longtemps cette tarification incitative comme la meilleure solution pour réduire les déchets. C'était notamment le cas pendant toutes les années 2010. Aujourd'hui, on revient pas tout à fait en arrière, mais on est moins ambitieux sur le sujet, puisqu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'effets pervers à cette tarification incitative. Elle fonctionne plutôt bien dans des milieux ruraux, parce que les pratiques de collecte sont plus adaptées, puisque les individus ont davantage d'espace chez eux pour stocker des poubelles, puisqu'on a une meilleure homogénéité sociale et davantage de pavillons, donc on peut l'appliquer. Les territoires urbains où il y a davantage de diversité socio-économique, où on a davantage d'habitats collectifs, ça marche beaucoup moins bien, et donc la tarification incitative est une des solutions pour réduire les déchets, mais pas la seule.
Quelles sont ses limites ?
Une des limites de la tarification incitative, c'est d'être centrée sur la production de déchets, de responsabiliser, voire de culpabiliser l'individu, mais de ne pas du tout prendre en compte les questions sociales et socio-économiques. Alors que l'autre mode de tarification, qui est la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, là, prend en compte les différences sociales. En gros, plus on a un logement qui coûte cher, plus on va payer cher cette redevance, peu importe la quantité de déchets qu'on va produire.
Le géographe Mathieu Durand au micro de Nicolas Ballu qui signait ce dossier consacré à la gestion des déchets. Maire pour quoi faire chaque jeudi à 18h15 jusqu'aux élections municipales de mars prochain. Rendez-vous de la rédaction à retrouver aussi sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. À la préparation ce soir, Alison Vicrobeck, à la technique, Olivier Arnet.